l'émission des étudiants de l'UVSQ.
Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Actu de la fac,
bon plan étudiant,
chronique,
débat,
coup de gueule,
clash,
rubrique culinaire,
factualité,
c'est tous les samedis à 10h,
le mardi à 15h,
le jeudi à
15h. D'accord, eh bien je vais vous éclairer.
Factualité sur Marmite FM
88.4.
Bonjour à tous. Et oui, cette émission va être un petit peu plus sérieuse que les autres, puisqu'on a quand même des personnalités un peu plus sérieuses. Hein, quand même. Non, je plaisante. Bienvenue à tous dans Factualité, diffusée sur Marmite FM 88.4, la radio de l'UVSQ, la radio de la fac, présentée par des jeunes.
Voilà.
On va poser les bases. Non, je plaisante. Présentée par des étudiants de la faculté. Avec moi au studio, on a Théo.
Salut Valentin, salut les auditeurs. Oui, très bien. Je suis en week-end, donc ça va.
Oui, bah ça on le dit pas, hein, on le garde pour soi à la limite. Avec nous, on a Caroline.
Salut Valentin, salut Théo.
Comment tu vas?
Mais très bien, et vous?
Bah super.
Et toi?
Oui, on est plusieurs. Hein.
Oui, mais c'est sérieux cette émission.
Ah mais c'est sérieux.
On se vouvoie.
Avec nous, donc du coup au studio, on a des personnalités. Nous avons Sophie Dupont.
Bonjour à tous.
Bonjour à vous. Vous êtes la présidente de l'EVSQY, qui est l'ensemble vocal de Sky. Hein,
de 50 ans en Yvelines.
De 50 ans en Yvelines, je vais y arriver. Comment vous allez?
Très bien. Je suis ravie d'être ici.
Ah bah ça fait plaisir. Merci. Merci à vous en tout cas d'être venu. Même si vous n'avez encore rien dit, parce que j'ai l'impression qu'elle est déjà partie en fait. Nous avons au studio Pascal Guillot.
Bonjour à tous.
Vous êtes enseignant d'histoire à l'UVSQ. Et enfin, nous avons Corinne Legrand.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, comment vous allez?
Très bien.
Super. Et avec Pascal, vous allez présenter l'exposition de 1937 qui se déroule en ce moment à la bibliothèque universitaire.
Tout à fait.
C'est ça, on y reviendra avec vous un peu plus tard. Tout de suite, les actualités de la fac. Allez, des petites actualités en bref. On le rappelle, hein, ce qu'on avait dit la dernière fois dans l'émission. Un colloque sur le blockchain est organisé le 17 mai à 17h à l'Institut français de la mode.
Blockchain, pas
ouais, t'as vu, j'ai retenu hein. Mon magnifique accent anglais. Donc, l'Institut français de la mode, amphithéâtre Yves Saint-Laurent au 36 quai d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement de Paris. Deuxième petite news en bref, les journées portes ouvertes à l'APHP. Alors qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des portes ouvertes qui sont organisées dans une trentaine d'hôpitaux de Paris. En fait, voilà, histoire de découvrir un petit peu le milieu médical, le milieu hospitalier, le milieu des urgences, etc. Donc ça se déroulera du jeudi 24 mai au samedi 26 mai dans une trentaine d'hôpitaux de Paris. Voilà, ça c'était pour les actualités de la brève et on va passer à ta chronique, Théo, et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'abeilles.
Des abeilles.
Des petites abeilles.
Des petites abeilles. Eh bien, vas-y, nous t'écoutons sur ces petits insectes qui sont utiles à la planète.
Eh bien, c'est parti. Alors, où commencer? Alors, vous savez-vous qu'il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde? Ça fait beaucoup, non?
D'accord.
20 000 espèces d'abeilles, il y en a 1 000 en France. C'est de plus en plus connu, mais les abeilles sont en déclin. Il y a ce qu'on appelle le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Depuis quelques années, c'est très inquiétant pour la biodiversité et pour nous tous, pour l'humanité tout entière. Mmh. Alors, c'est un peu une phrase choc que je vous dis là. L'homme ne va pas disparaître, rassurez-vous, mais c'est assez inquiétant parce qu'on dépend en fait du rôle des pollinisateurs et de tous les insectes et qui sont en fait sur le déclin pour de nombreuses raisons. Notre dépendance, c'est l'alimentation. C'est 35% de la production mondiale alimentaire qui est liée à la pollinisation. Ça représente environ 150 milliards d'euros par an. Et sans ces pollinisateurs, c'est impossible. C'est le coût des produits qui va augmenter. C'est toute la chaîne alimentaire qui va être transformée. Et on ne sait pas ce qui peut se passer après si c'est le phénomène d'extinction des abeilles et des pollinisateurs continue. Et donc c'est pour ça qu'il faut préserver... Nos chers amis les abeilles.
Mais est-ce que ça peut arriver en fait?
Est-ce que ça peut arriver? C'est en train d'arriver.
D'accord.
C'est, en quelques chiffres, c'est 30 à 40% des abeilles qui ont disparu en France. Et c'est chaque année 350 000 ruches qui disparaissent mystérieusement. Parfois on ne retrouve même pas les abeilles. Et donc les scientifiques sont en train de chercher là-dessus d'où ça vient. aux États-Unis, ils transportent chaque année toutes les abeilles des États-Unis. Ils les transportent en Californie pour polliniser les amandiers, qui représentent les amandes californiennes, c'est 80% de la production mondiale. Mais ça fragilise énormément les abeilles parce qu'on utilise plein de pesticides, plein de produits phytosanitaires. Et ça tue les abeilles et c'est les transports qui les rendent fragiles, etc. Et donc c'est hyper problématique parce qu'elles ne survivent pas. Et donc, quand elles reviennent dans leur territoire, elles traversent tous les États-Unis, et quand elles reviennent, elles meurent. Et donc, c'est un problème énorme pour l'économie, en fait, mondiale.
D'accord, donc en fait, on les déporte, en quelque sorte, en fait.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça. Et les causes, en fait, de cette extinction, selon les scientifiques, elles sont multiples. Il y a des parasites qui viennent se fixer sur le dos des abeilles. C'est les varroa destructeurs. Il y a les produits phytosanitaires aussi qui sont dangereuses parce qu'elles fragilisent les abeilles, elles ne savent plus se repérer. Du coup, elles ne peuvent pas revenir à la ruche après avoir été chercher leur nectar. Il y a aussi de plus en plus de prédateurs, dont un particulièrement dangereux qui est le frelon asiatique, qui mange les abeilles et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Il y a aussi plein de virus, plein de bactéries, plein de champignons qui fragilisent aussi les abeilles. Une autre cause, c'est la monoculture. Il faut savoir que si on cultive une seule espèce sur de vastes champs, eh bien les abeilles elles n'ont pas de multiples aliments, pas de diversité des aliments. Du coup, leur nectar est moins bon et ça les fragilise aussi. Et avec le développement de ces grandes surfaces de champs, il n'y a pas les petits bosquets, les haies, plein de petites espèces d'essence locales en fait, qui leur donnent à manger. Sont les sources de leur nectar et du coup ça les fragilise.
D'accord, ouais. Donc c'est un vrai problème planétaire. Et quelles sont finalement les solutions qui sont mises en place pour éviter ce déclin?
Alors les solutions, c'est en fait c'est repenser tout le système agricole pour préserver ces abeilles, pour leur permettre d'avoir du nectar varié, pour leur permettre en fait tout simplement de ne pas les fragiliser comme on le fait actuellement. C'est de refuser aussi donc, toutes les cultures qui dépendent des produits phytosanitaires. Parce qu'une abeille, rien que pour cultiver un gramme de nectar, elle va butiner sur 3000 fleurs. Et à chaque petite fleur, elle consomme en fait un peu de pesticides. Et c'est le système nerveux qui est fragilisé. Et donc l'abeille ne peut plus revenir à sa ruche, elle meurt. Mmh. Et c'est à long terme, c'est un phénomène qui est hyper... hyper dangereux pour elle et donc pour toute la planète. Et aussi, qu'est-ce que nous, on peut faire comme consommateurs? C'est changer notre mode de consommation. C'est éviter de consommer des produits issus de l'industrie chimique. C'est refuser de consommer des produits issus de Monsanto. Et on sait que récemment, Monsanto a fait une alliance avec Bayer, donc qui est la firme allemande qui produit des médicaments. Et c'est ce système qu'il faut refuser pour protéger notre biodiversité.
D'accord. Ok. C'est finalement changer tout notre mode de consommation, notre mode de vie, etc.
C'est exactement ça, oui.
D'accord, ok. Eh bien, merci Théo pour cette chronique encore sur penser sur le plan environnemental. On espère que tu vas en refaire avant la fin du coup de Factualité, enfin en tout cas de cette année. On passe tout de suite à l'interview avec Pascal et Corinne sur l'exposition de 1937 qui se déroule actuellement à la bibliothèque de l'université Versailles-Saint-Quentin. Et Caroline, tu avais une question, enfin tu voulais intervenir la première, je crois.
Bah oui.
Eh ben vas-y.
Ok. Entrons dans le vif du sujet, l'exposition internationale de 1937, Pascal et Corinne. Moi j'ai des petites questions sur le projet. Sur sa jeunesse, ses origines. Et je voudrais savoir qui sont les instigateurs de ce projet, qui a créé ce projet.
Alors merci déjà de nous accueillir, hein. Nous sommes ravis d'être par un niveau. Donc ce projet remonte en fait à la publication par les Cahiers d'Histoire, Revue d'Histoire Critique, d'un numéro consacré spécifiquement à l'exposition internationale de 1937. Donc suite à ce numéro qui évidemment était disponible à la BU, nous avons contacté les responsables de la bibliothèque universitaire, enfin tout du moins moi j'ai contacté un certain nombre de personnes à l'occasion de visites avec des étudiants. J'ai fait connaissance de toute l'équipe de la BU qui est très dynamique et notamment Armelle Rigaud qui est porteuse du projet. Qui a accepté volontiers cette initiative de faire en sorte que nous puissions à la fois accompagner ce numéro des Cahiers d'Histoire avec une exposition et par ailleurs une table ronde. Donc c'est ce que nous avons fait. Alors c'est vrai que ça a mis du temps puisque bien sûr le numéro des Cahiers d'Histoire est sorti, est paru en septembre de 2017. Mmh. Et peu à peu, bien sûr, on a engagé les pourparlers, on a essayé de voir sur quoi pouvait reposer le projet et on a pu le présenter à la bibliothèque universitaire à partir du mois de février. Ça a mis quelques mois, mais c'est les Cahiers d'Histoire au début qui, bien sûr, avaient mis en place ce numéro particulier sur l'exposition de 37 à partir d'un fonds de photographie notamment, le fonds de Duchesne dont on parlera certainement tout à l'heure. Et suite à ce numéro, évidemment, on a pensé qu'on pouvait présenter une exposition sur cette grande manifestation de 1937, d'autant plus qu'à l'époque était prévu sur le plateau de Saclay l'exposition de 2025, l'exposition internationale de 2025 qui finalement a avorté faute d'engagement, faute de volontarisme politique. Hein, ça fait plusieurs fois que déjà des initiatives de ce type ont échoué puisque depuis 1937 la France n'accueille plus d'exposition internationale sur son territoire. Plus d'expo universelle. En 1989, François Mitterrand voulait faire une exposition internationale à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Jacques Chirac a refusé au nom de la maîtrise des dépenses publiques. Et en 2004 aussi, Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre de l'époque, a refusé aussi l'initiative qui devait se tenir sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc ça fait... Et là, dernièrement, l'initiative du plateau de Saclay a avorté, alors qu'en fait, elle était bien préparée. Et c'est vrai que nous, on se plaçait justement dans cette dynamique-là. On s'est dit, tiens, l'exposition sur 37 permet justement de poser les différents jalons pour voir comment on arrive aux expositions, comment les expositions internationales peuvent se tenir, comment elles se mettent en place, quelles sont leurs finalités, quel est ce projet. Voilà.
D'accord, ok. Donc la date de début du projet, c'est septembre 2017.
Voilà, c'est ça, okay. Septembre 2017. Et après quelques mois, parce qu'il a fallu rassembler des objets, des photographies, il a fallu rassembler aussi notamment, puis faire des panneaux pédagogiques. Alors là, il a fallu évidemment recourir à un imprimeur, il a fallu aussi qu'on compose ces panneaux. Donc ça a nécessité de la mise en page, ça a nécessité tout un travail évidemment en amont pour que ça puisse aboutir. Et c'est un travail qui a dû durer à peu près 4-5 mois. Oui, ça a nécessité 4-5 mois de travail quand même.
D'accord. Et donc 4-5 mois de préparation et donc l'exposition, cet hommage à l'exposition dure du 12 mars au 12 mai 2018. Donc la fin approche bientôt.
Voilà, elle se prolonge un tout petit peu en fait jusqu'en fin mai et elle est amenée à être itinérante après en fait, puisque itinérante dans certains bâtiments d'université, notamment les autres bibliothèques universitaires de l'UVSQ, mais aussi elle est amenée à être itinérante dans d'autres territoires et auprès notamment d'établissements scolaires ou dans des structures associatives qui seraient intéressées par la présentation de cette exposition internationale de 37.
Ah, c'est bien, tout ce travail de longue haleine va continuer à être exposé aux yeux des habitants du département et voir...
Et au-delà. Au-delà. Oui, puisque évidemment, c'est Paris, mais c'est le Grand Paris aussi qui est en question sur ce projet. Donc,
Vous avez du coup déjà votre calendrier d'itinérance prévu pour l'exposition ?
Pas encore totalement. Alors, je sais qu'il y a l'IEP de Strasbourg qui normalement doit l'accueillir en septembre-octobre et elle doit partir dans un endroit tout à fait singulier pour l'instant en mois de juin, en Saône-et-Loire, puisque c'est l'un des lieux de résidence de Michel Duchesne qui nous a prêté une partie de ses fonds photographiques. Donc voilà, il y a déjà au moins deux lieux prévus, mais après, certainement, elle reviendra sur le territoire francilien, avec notamment d'autres sites de l'UVSQ.
D'accord. Et je voudrais savoir l'entrée en contact avec justement Michel Duchesne pour ce prêt de tous ces produits, donc ces photographies et ces objets. Ça a été facile
Il se trouve que Georges Verrou, qui est l'un des historiens du droit, notamment, et aussi membre du comité de rédaction des cahiers d'histoire, connaissait Michel Duchesne. Donc, il se trouve qu'évidemment, il a pu facilement rentrer en contact avec lui et lui proposer cette possibilité de présenter donc ce fonds, puisque nous avions évidemment dans notre revue Les Cahiers d'histoire, nous avions plusieurs contributions. Nous avions quatre contributions d'historiens et puis un archéologue, mais le fait d'intégrer aussi des photos, des photographies dans ce dossier, ça nous semblait utile parce que ça, d'une part, ça permet aussi d'avoir un peu plus de... C'est un peu plus attractif, si j'ose dire. Et puis d'autre part, ça donne aussi une autre vision de l'expo à partir de photos inédites pour la plupart. C'est ça qui était aussi intéressant, de présenter des images qui n'avaient jamais été présentées au public jusqu'alors et que l'on faisait découvrir à nos lecteurs et puis après, bien sûr, au public de la bibliothèque universitaire.
C'est une exclusivité, oui, en somme. Pour la communauté de l'UVSQ.
Voilà, oui, c'est ça, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Alors après, il y a quelques photos, évidemment, qui viennent d'autres fonds, hein, notamment de la Bibliothèque nationale, de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Oui. Il y a aussi, il y a des objets qui ont été prêtés par d'autres personnes aussi, mais essentiellement, c'est vrai que le fonds qui constitue cette présentation, c'est le fonds Duchesne, donc qui est Duchesne étant à la fois un des paysagistes de cette époque, un des acteurs de l'exposition, puisque c'est lui qui présentait notamment la section de l'art des jardins à Sceaux, puisqu'il y avait une partie de l'exposition qui était présentée en dehors de Paris Intramuros, qui était à Sceaux, donc sur l'art des jardins. Et par ailleurs, il était acteur aussi de cette expo. Il a été récompensé d'ailleurs à l'issue de cette manifestation. Et il était lui-même acteur parce qu'il habitait sur place, en quelque sorte. Il habitait avenue de New York, donc dans le 16e arrondissement, à côté du futur palais de Tokyo. Et donc, il a pu aussi photographier en permanence l'événement en cours, c'est-à-dire le chantier, d'une part, c'est ce que l'on montre en partie dans l'exposition, et puis ensuite les réalisations au fur et à mesure qu'elles avançaient, au fur et à mesure que le chantier avançait, lui-même prenait il avait plusieurs appareils photographiques, et donc il prenait des clichés régulièrement. Donc, évidemment, ça donnait le pouls de l'exposition en cours. C'est ça qui était intéressant. C'était vraiment c'était un des acteurs d'expo. Mais c'est vrai que c'était pas un photographe officiel, contrairement à d'autres comme François Collard, par exemple. Mais c'était quelqu'un qui, du coup, de ses propres fenêtres, pouvait montrer l'exposition dans toutes ses dimensions. Et notamment, par exemple, le cortège de l'inauguration qu'il a pris vraiment de sa propre fenêtre de son salon pour montrer le jour de l'inauguration, le 24 mai, l'arrivée d'Albert Lebrun, président de la République.
D'accord. J'aimerais qu'on aborde un petit peu la question du financement de ce projet. Comment est-ce que vous avez financé cette...
Alors, c'est vrai que c'est pas facile, vous avez raison, le financement d'une telle exposition, même si le coût est relativement modeste, mais enfin, c'est vrai qu'il y a plusieurs intervenants. Alors, la bibliothèque universitaire, évidemment, a été partie prenante, hein, donc elle a tout de suite été, porteur du projet, donc elle a bien sûr apporté sa contribution. L'UFR de sciences sociales a tout de suite réagi très positivement, et François Naft, notamment le directeur de l'UFR, a voulu s'engager dans cette exposition vraiment et a dit qu'il finançait une partie de l'exposition, bien sûr. Et puis, par ailleurs, nous-mêmes, en tant que, puisque moi aussi je suis membre du comité de rédaction des cahiers d'histoire, en tant que revue, on s'est engagé aussi dans le projet. Donc la revue a financé, par ailleurs, et l'association aussi qui, bien sûr, diffuse des cahiers d'histoire, l'association des amis des cahiers d'histoire, elle-même aussi a participé au financement d'exposition. Donc vous voyez, finalement, c'est un financement quadripartite, si j'ose dire, mais un financement qui, voilà, ça n'a pas été facile au départ parce qu'il a fallu négocier forcément parce que c'était quand même assez délicat de pouvoir trouver un financement suffisant pour une exposition pareille. Et voilà, mais on n'y a pas renoncé et heureusement, il y a eu des personnes, bien sûr, les cahiers d'histoire, c'était normal, la bibliothèque aussi, mais c'est vrai que vu... Les financements un peu contraints aujourd'hui, c'est pas toujours facile de financer ce genre d'initiative.
Ouais. Oui, ben, c'est un beau projet qui a pu aboutir grâce à quatre financeurs. Voilà. Ça, c'est très bien. Et donc, ces quatre financeurs sont les partenaires de cet hommage à l'exposition.
Voilà, absolument. Et puis beaucoup de bénévoles aussi, enfin beaucoup de gens qui se sont investis massivement dans cette exposition, aussi bien le comité de rédaction des cahiers d'histoire, toute l'équipe en effet de la BU, avec notamment bien sûr Armel Rigaud, Corinne Legrand bien sûr, qui interviendra tout à l'heure. Mais sans toutes ces personnes qui se sont investies massivement dans ce projet, ainsi que l'imprimeur aussi, qui a été aussi partie prenante de ce beau projet, sans l'investissement de tous ces acteurs, on n'aurait pas pu forcément aboutir à ce type d'exposition.
D'accord. Dernière question pour ma part, et ensuite je te laisse la parole, Valentin.
Pas de souci.
Donc pour vous, les objectifs d'un tel projet, quels sont-ils ? Qu'est-ce que vous voulez que la communauté UVSQ retienne de cette exposition?
Alors, c'est vrai qu'au départ, c'est un projet, c'est à la fois pédagogique et scientifique. C'est-à-dire, évidemment, il s'agit de voir aussi comment les pouvoirs publics peuvent financer une grande initiative internationale. Bon, voir aussi... et c'est bien sûr aussi toute l'histoire culturelle qu'il y a derrière. C'est-à-dire, on est là dans un contexte très particulier. C'est le contexte des années 30. Donc, on est vraiment un tournant. On sent que ça va vaciller. On sent qu'en effet, il y a des forces contradictoires. Et on sait que... Et c'est ça qu'on veut essayer de faire percevoir, justement, toutes ces tensions qui sont déjà sensibles à l'occasion de cette expo, hein, puisque en fait cette expo elle est le pouls à la fois de tout ce qui se passe au niveau social, économique, culturel à cette époque. D'ailleurs, il y a qu'à voir le site même, hein, le pavillon soviétique fait face au pavillon nazi, donc c'est vraiment tout à fait significatif de cette époque, de ce début de confrontation. Et puis il y a aussi bien sûr l'Espagne républicaine derrière, donc c'est vrai que voilà, on a voulu essayer de montrer tout ça, toutes ces dynamiques contradictoires, et puis c'est revenir sur cette période des années 30 qui est très riche sur le plan artistique, sur le plan culturel, parce que les expositions c'est un peu des condensateurs, hein, c'est-à-dire c'est à la fois pour montrer, c'est à la fois pour faire rayonner le prestige d'un pays, mais c'est aussi pour montrer toutes les innovations technique, culturelle, artistique d'une époque. Donc c'est ça qu'on a voulu montrer, c'est cette espèce de foisonnement intellectuel qu'il y avait à ce moment-là et qui, alors qu'il ne s'agit pas de reproduire aujourd'hui, mais peut-être qu'il faudrait repenser. Bon, il y a des nations qui se sont engagées récemment dans des expositions internationales, mais c'est vrai que c'est très dynamique parce que, alors bien sûr, ça n'a plus tout à fait la même dimension aujourd'hui que ça avait au début du 20e ou en 1937. En 1937, en plus, c'était pour commémorer le tricentenaire du discours de la méthode de Descartes, parce que chaque exposition est liée à une commémoration, en fait. Et alors qu'évidemment, aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique-là. On est dans une logique où, d'une part, il s'agit plutôt de travailler sur des thématiques particulières, un peu transversales, autour de notions de développement durable ou autre, alors qu'à l'époque, on avait vraiment la volonté, d'une part, de montrer ce qu'il y avait de plus sensible et de plus avancé dans chacune des nations. Et puis, il y avait les échanges qui étaient possibles. Bon, aujourd'hui, bien sûr, on bouge beaucoup plus. Aujourd'hui, les gens, ils voyagent plus, ils sont plus au courant de ce qui se passe à l'autre bout du monde. À l'époque, dans les années 30, tout le monde plutôt découvrait ce qui justement était pour chacun, pour les gens de ce public, totalement exotique. Il y a eu quand même 31 millions de visiteurs, donc c'est vraiment, vous voyez, une initiative qui a eu un fort impact et qui a permis justement à certaines personnes de découvrir des civilisations, des nouveaux courants artistiques, des innovations techniques qui n'avaient jamais été montrées jusqu'alors. Donc c'est vrai que voilà, c'est cette espèce de bouillonnement qu'on a voulu montrer, mais aussi cette période de transition. Et bon, aujourd'hui, justement, on est aussi à une période de transition, certainement, de rupture. Et donc, je pense que c'est bien de, justement, de faire un éclairage sur ce qui a pu se manifester dans les années 30, même s'il ne s'agit pas de faire, de reproduire totalement ce qui existait à l'époque. Mais il s'agit de s'en nourrir et éventuellement de voir en quoi ça peut être fertile pour aujourd'hui et aussi en quoi on peut aussi, justement, prendre ses distances par rapport à des modèles politiques, etc. Enfin, c'est ça qui était aussi intéressant.
Merci Pascal. Alors ben, je vais vous couper hein, parce que c'est la fin de la première partie de l'émission, mais restez là.
Merci beaucoup.
Eh ben, merci Caroline, merci Pascal. On reprendra pour la deuxième partie de l'émission cette interview. En tout cas, je vous remercie à tous d'être venus ce soir. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour la deuxième session de cette émission. Nous avons une page Facebook qui est...
Oui, Facebook, c'est Factualité UVSQ.
Voilà, Factualité UVSQ. Nous avons aussi une page Twitter.
Factualité 78.
Voilà, super. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, etc. Sur les réseaux sociaux. On sait que vous êtes nombreux à écouter cette émission. On se retrouve du coup la semaine prochaine. D'ici là, restez...
Cultivés.
Factualité.
L'émission des étudiants de l'UVSQ.
Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Actu de la fac.
Bon plan étudiant.
Chronique.
Débat.
Coup de gueule.
Clash.
Rubrique culinaire.
Factualité.
C'est tous les samedis à 10h.
Le mardi à 15h.
Le jeudi
à 15h.
D'accord. Eh bien, je vais vous éclairer.
Factualité sur Marmite FM
88.4.